Chapitre 16. Il ne plut pas le dimanche soir, ni le lundi, mais la journée fut grise et moite. Le père de Duane avait fixé l'incinération de son frère mercredi à Peoria, et il restait pas mal de détails à régler. Il fallait aussi prévenir les gens, au moins 3 personnes. Un vieux compagnon d'armes, d'oncle Hart, un cousin avec lequel il avait gardé des relations suivies, et une ex-fiancée insistèrent pour y assister. Aussi décida-t-il qu'il y aurait une brève cérémonie à 15h dans la seule entreprise funéraire de Peoria à faire des incinérations. Le pater essaya presque toute la journée du lundi d'appeler J.P. Congdon, mais celui-ci était toujours absent. Lorsque, dans l'après-midi, Barney vint annoncer à McBride qu'on avait porté plainte contre lui, Duane resta dans l'embrasure de la porte pour écouter.
« Martin, » dit le policier, « vous savez que J.P. raconte partout que vous avez tué son chien ?»
Le pater avait aussitôt montré les dents.
« Ce maudit animal s'en prenait à mon fils ! Un gros Doberman avec un cerveau aussi microscopique que le zob de Congdon !»
Barney tourna et retourna son chapeau dans ses mains.
« J.P. prétend que le chien était à l'intérieur de la maison. C'est là qu'il aurait trouvé le cadavre. Quelqu'un serait entré chez lui par effraction pour le tuer. »
Le pater cracha dans la poussière.
« Mon Dieu, vous savez bien que tout ça, c'est que des mensonges. À peu près comme les prétendues infractions au code de la route servant de prétexte à ces arrestations. Le chien était bien dans la maison quand nous avons frappé à la porte. Et il y était encore quand mon gamin et moi avons tourné au coin de l'appentis après avoir examiné la Cadillac d'Art, qui, entre parenthèses, ne devrait pas se trouver là. Un tiers n'a pas le droit d'acheter une épave avant que l'enquête sur l'accident soit close. Quoi qu'il en soit, ce monstre a attaqué Duane bien après que nous sommes entrés dans la cour de derrière, ce qui signifie que cet enculé de Congdon l'a lâché en sachant pertinemment qu'il allait nous sauter à la gorge. »
Barney regarda le fermier dans les yeux.
« Mais vous ne pouvez absolument pas prouver ce que vous avancez, n'est-ce pas ?
Pourquoi croyez-vous qu'il vous a envoyé me voir ? Comment saurait-il que c'est moi qui ai tué son sale cabot ?
Les voisins vous ont vu ?
Foutaise ! Madame Dumont est la plus proche voisine de Congdon et elle est aveugle. Ah, la seule autre personne de ce quartier qui me connaisse de vue, c'est la mère de Jimmy et elle est à Oak Hill avec son fils. De plus, j'avais parfaitement le droit d'entrer chez lui. Il a illégalement confisqué la voiture d'Art et il en a arraché les portières pour cacher la vraie cause de l'accident.
Qu'est-ce que vous racontez là ?
Je parle des 2 portières de gauche sur lesquelles se trouvaient des indices se rapportant à l'accident. Des traces de peinture rouge. De la même couleur que celle du camion qui a tenté d'écraser mon fils il y a exactement une semaine. »
Barney sortit son carnet de sa poche, écrivit quelques lignes au crayon et demanda
« Vous en avez parlé au shérif Conway ?»«
Bien sûr que je lui en ai parlé !»
rétorqua le pater en se frottant rageusement les joues. Il était rasé de frais et l'absence de poils sur son visage semblait le déconcerter.
Il a dit qu'il allait s'en occuper. Et il a vraiment intérêt à se remuer parce que s'il ne mène pas une enquête sérieuse, je porterai plainte non seulement contre Congdon, mais contre lui.
Vous croyez qu'il y avait un deuxième véhicule alors ?
Je suis convaincu que mon frère n'a pas franchi ce pont à 120 à l'heure sans y être forcé et contraint. Hart respectait stupidement les limitations de vitesse, même sur des chemins infâmes comme Jubilee Courage. Je suis sûr qu'on l'a obligé à quitter la route.
Barney retourna à sa voiture.
Je vais appeler Conway et lui dire que j'enquête de mon côté.
Cela étonna Duane. Il n'entrait pas dans les attributions de Barney d'enquêter sur les décès provoqués par des accidents de la circulation. Il voulait juste rendre service au pater.
En attendant, ajouta-t-il, je vais dire à notre cher shérif que ses voisins ont dû faire erreur. Peut-être son chien est-il mort de mort naturelle ? Cette saleté de bête s'en était déjà prise une ou deux fois à moi.
Il tendit la main à McBride.
Je suis désolé pour Hart, Martin.
Surpris, le pater serra la main du policier. Duane sortit et regarda à côté de son père l'automobile descendre le chemin. Le garçon sentait que s'il regardait son père, il verrait, pour la première fois depuis l'accident, des larmes briller dans ses yeux. Il s'abstint soigneusement de tourner la tête vers lui. Plus tard dans la soirée, Duane et son père allèrent chez Hart prendre un complet pour l'apporter le lendemain à l'entreprise funéraire de Peoria.
Quelle idiotie ! Marmonna le pater en chemin. « Quand je pense qu'ils vont juste l'incinérer, lui, et le cercueil, il pourrait tout aussi bien être à poil. Ça ne gênerait personne. »
Duane reconnut le genre de remarque provoquée par une journée sans alcool, aussi bien que par le chagrin ou la mauvaise humeur. Son père n'était pas loin de son dernier record d'abstinence 2 ans auparavant. Duane attendait avec impatience cette visite à la maison de son oncle. Il n'avait pas voulu insister pour chercher le livre dont Art lui avait parlé, mais il savait que son père serait obligé d'aller là-bas avant les obsèques. Il faisait nuit quand ils arrivèrent. Oncle Art habitait à plusieurs centaines de mètres du bord de la route, dans une petite maison de bardeaux blancs qu'il louait aux fermiers exploitant les champs environnants. Il se contentait de cultiver son potager à l'arrière de la maison. Le pater contempla quelques instants le jardin avant d'entrer, et Duane savait qu'il pensait qu'il serait obligé de venir l'entretenir. Dans quelques semaines, il mangerait les tomates dont Art raffolait. La maison n'était pas fermée à clé. En entrant, Duane remonta ses lunettes sur son nez, le chagrin lui serrait la gorge. L'odeur du tabac d'oncle Art flottait encore dans la maison. À cet instant, il comprit combien brève est la vie et éphémère la présence d'un être humain. Elle se réduit à si peu. L'odeur d'un tabac que cet être ne fumera plus jamais, quelques vêtements que d'autres porteront, les inévitables photographies, papiers officiels et lettres qui n'ont plus de sens pour personne. Un homme sur cette terre, découvrit-il avec un choc qui lui donna le vertige, ne laisse pas plus de traces qu'une main plongée dans l'eau.
« J'en ai juste pour une minute, » marmonna le pater. « Attends-moi ici. »
Ils avaient traversé la cuisine et se trouvaient dans la pénombre du bureau. Duane alluma. Son père disparut dans la chambre. L'enfant l'entendit ouvrir la porte du placard. La maison d'oncle Art n'était pas grande. Elle se composait seulement d'une cuisine, d'un bureau, ex-salle à manger, et d'un petit salon où s'entassaient un vieux fauteuil en bois, des étagères chargées de livres, 2 autres fauteuils de chaque côté d'une petite table sur laquelle était posé un jeu d'échecs. Duane reconnut la partie commencée 3 week-ends plus tôt, et un poste de télévision. La chambre, minuscule, se trouvait tout au bout. Duane essaya de se concentrer. Art avait une fois avoué qu'il tenait un journal depuis 1941. Le livre dont il avait parlé au téléphone semblait irrémédiablement perdu, volé par Congdon ou quelqu'un d'autre. Mais il y avait peut-être fait allusion dans son journal. Il alluma la lampe du bureau. Du sol au plafond, cette pièce était entièrement tapissée d'étagères chargées d'ouvrages, pour la plupart reliés. D'autres étagères, au milieu de la pièce, encadraient la grande planche sur tréteau servant de table de travail. Sur celle-ci s'entassaient, outre le téléphone, des factures, des piles de lettres que Duane feuilleta rapidement, des coupures de presse de la rubrique « Échecs de journaux de Chicago et New York », des revues, des dessins humoristiques découpés dans le New Yorker, une photographie encadrée de sa seconde épouse, un autre cadre avec un dessin de Léonard de Vinci d'une machine ressemblant à un hélicoptère, et des piles de feuilles volantes. Liste de courses, adresse des membres du syndicat de l'usine Caterpillar, liste des lauréats du prix Nobel et un tas d'autres choses, y compris un bocal contenant des billes et un autre des réglisses, que Duane pillait systématiquement. Pas de journal intime. Et la table n'avait pas de tiroir. Duane regarda autour de lui. Il entendit le pater ouvrir et fermer les tiroirs de la chambre, sans doute à la recherche de chaussettes et de sous-vêtements. Il n'en avait plus pour longtemps. Où oncle Art pouvait-il bien ranger son journal? Dans la chambre? Non, il n'était pas du genre à écrire au lit. Il s'assit dans le vieux fauteuil et sentit combien le vernis des accoudoirs avait été usé par les bras de son oncle. Il devait écrire quelques lignes tous les jours, sans doute le soir, ici même. Duane tendit la main gauche. Oncle Art était gaucher. L'une des étagères les plus basses était juste à sa portée. Elle était large et supportait une 12aine de volumes sans titre, presque invisibles dans l'ombre de la table. Duane en tira un. C'était un cahier à reliure de cuir, en papier de bonne qualité d'environ 500 pages, couverte de lignes écrites à la main, avec une plume à l'ancienne. D'une écriture illisible, ou plutôt indéchiffrable. Mais en haut d'une page, Duane n'eut aucun mal à lire ces chiffres. 19-3-57. Oncle Art disait souvent qu'il aimait bien la manière européenne d'écrire les dates, en précisant d'abord le jour, puis le mois, puis l'année. « Du plus petit au plus grand », avait-il expliqué un jour à Duane, alors âgé de 6 ans. « C'est bien plus logique. » Duane remit le cahier à sa place et prit celui qui se trouvait le plus à gauche, le plus facile à atteindre. La première page était datée du 1-1-60 et la dernière du 11-6-60. Oncle Art avait donc écrit quelque chose le samedi soir, mais rien le dimanche matin.
« On y va ?»
Le pater était à la porte. Il portait d'une main un costume enveloppé de la cellophane du teinturier et de l'autre un vieux sac de sport. Il s'avança dans la zone éclairée et montra de la tête le cahier que Duane avait machinalement refermé.
« C'est ça que Hart voulait apporter ?»
Duane n'hésita qu'une fraction de seconde.
« Je crois. »«
Alors, prends-le. »
Le pater passa dans la cuisine. Duane éteignit la lumière, songeant aux 18 années de réflexion personnelle contenues dans tous ses cahiers, et il se demanda s'il n'avait pas tort. Son oncle avait choisi d'écrire en un langage codé et si son neveu, champion du décryptage, arrivait à déchiffrer ce code, il lirait des choses qu'oncle Hart n'avait pas voulu montrer, ni à lui, ni à personne d'autre.
Mais il avait bel et bien l'intention de me dire ce qu'il avait découvert. Il avait l'air excité, sérieux, mais excité, et peut-être même un peu inquiet.
Duane s'empara du lourd cahier, sentant tout autour de lui la présence de son oncle à cause de l'odeur du tabac, des centaines de livres, du volume relié. Il faisait maintenant complètement noir dans la pièce, et le garçon avait l'impression que le fantôme de son oncle l'incitait à prendre le livre, à s'asseoir là tout de suite et à le lire sous sa protection. Il s'attendait presque à sentir une main se poser sur sa nuque. Sans hâte, il traversa la cuisine et rejoignit son père dans le pick-up. Dale et Lawrence avaient passé toute la journée à jouer au ballon, en dépit des nuages menaçants et de l'humidité poisseuse. Lorsque ce fut l'heure du dîner, ils étaient noirs de crasse. Les voyant arriver par la fenêtre de la cuisine, leur mère leur ordonna d'entrer par derrière et d'enlever tous leurs vêtements avant d'aller plus loin. Dale fut chargé d'aller les porter au fond de la cave où était installée la machine à laver. Dale détestait la cave, le seul endroit de la maison où il ne se sentait pas en sécurité. Mais heureusement, on était en été et il n'était pas obligé de descendre tous les soirs après dîner charger la chaudière. Les marches qui menaient à la cave avaient au moins 60 cm de haut. On les eût dites construites pour un géant. L'escalier descendait en colimaçon entre le mur extérieur et celui de la cuisine, et le sous-sol semblait bien plus bas qu'il ne l'était réellement. « Des escaliers de donjon », disait Lawrence. L'ampoule en haut des marches n'éclairait presque pas la partie du couloir menant à la chaufferie. Il y en avait bien une autre derrière la chaudière et une troisième au-dessus du tas de charbon, mais pour les allumer, il fallait tirer sur un cordon. En passant, Dale jeta un coup d'œil à droite vers la cave à charbon. Elle n'avait pas vraiment de porte, juste une ouverture d'environ 1 mètre carré avec une marche. Du sol au plafond, la petite pièce ne mesurait pas plus 1,50 m. Et Dale savait combien il était fatigant pour son père de s'y tenir courbé à pelleter le charbon. Ce qu'il détestait le plus dans la cave à charbon, ce n'était pas le caractère pénible de sa tâche, bien qu'il eût tout l'hiver des cales aux mains, ni la poussière de charbon, même s'il en gardait encore le goût dans la bouche après s'être lavé les dents. Mais le vide sanitaire qu'il y avait derrière. Un étroit boyau plein de tuyaux et de toiles d'araignée qui s'élargissait ensuite sous la pièce servant de bureau à son père et qui aboutissait sous la grande véranda. En pelletant le charbon, le jeune garçon entendait des souris et d'autres rongeurs plus gros courir là-dedans. Et un soir, en se retournant brusquement, il avait vu de petits yeux rouges qui le regardaient. Les parents de Dale le complimentaient souvent de la vitesse avec laquelle il s'acquittait de sa tâche. Ses 20 minutes quotidiennes étaient le plus horrible moment de sa journée, et il pelletait à perdre haleine pour remonter plus vite. Ce soir-là, la lumière de l'escalier projetait à peine une lueur dans la cave à charbon, et le boyau derrière était plongé dans l'obscurité la plus complète. Dale trouva le cordon de la première ampoule, cligna des yeux à la soudaine clarté, passa dans la chaufferie, contourna la chaudière, arriva dans l'espèce d'atelier où son père avait installé un établi, et tourna à nouveau à droite pour entrer dans la dernière pièce où se trouvaient machine à laver et séchoir à linge. Pas plus que les autres, cette pièce n'avait de fenêtre, et le cordon interrupteur pendait au milieu, près du mur sud. Une fosse circulaire d'un mètre de diamètre semblait s'enfoncer dans l'obscurité. Au-dessus était installée une grosse pompe qui, en théorie, fonctionnait en cas de risque d'inondation. Mais le sous-sol avait tout de même été inondé 2 fois en 4 ans et demi, et M. Stewart avait dû une fois patauger dans 60 cm d'eau pour bricoler la pompe. Dale jeta les vêtements sales dans la machine, éteignit et retraversa sans s'attarder l'atelier, la chaufferie et le couloir, sans prendre cette fois le temps de jeter un coup d'œil dans la cave à charbon, puis il gravit les 10 hautes marches de l'escalier en colimaçon. Gêné de se retrouver en caleçon dans la cuisine, il la traversa au pas de course, Lawrence pataugeait déjà dans la baignoire en faisant des bruits de bataille navale, Dale enfila un peignoir en éponge et s'allongea sur son lit pour lire un vieux magazine de science-fiction, en attendant de prendre un bain à son tour. Une fois seul en bas dans son coin bien éclairé du sous-sol, Duane n'eut pas besoin de plus de 5 minutes pour décrypter le code. Le journal d'Oncle Hart semblait rédigé en hindi, mais c'était tout simplement de l'anglais à l'envers, à lire dans un miroir. Le texte était écrit de droite à gauche et les mots collés les uns aux autres afin que le système ne soit pas trop évident. Les lettres étaient reliées entre elles au sommet, ce qui donnait aux lignes une allure exotique. Et il avait remplacé les points par des F à l'envers précédés de 2 petits points, et les virgules par des F à l'envers précédés d'un seul point. Duane vit que la page sur laquelle il était tombé parlait de problèmes à l'usine. Un contremaître était soupçonné de piocher dans la caisse du syndicat. Venait ensuite le résumé d'une discussion politique entre lui et son frère. Duane parcourut rapidement le passage. Il se souvenait de cette conversation où son père, complètement saoul, avait réclamé à grands cris la destitution du gouvernement. Il se hâta de tourner les pages pour arriver à la dernière. 11-6-60. J'ai trouvé le passage sur la cloche dont parlait Duane. Dans Apocryphe, supplément au livre de la loi d'Aleister Crowley. J'aurais dû me douter que Crowley, qui se veut le mage de notre époque, savait quelque chose à ce sujet. Passer une heure à hésiter sous la véranda. Au début, je pensais qu'il valait mieux n'en parler à personne. Mais le petit Duane a travaillé dur pour élucider ce mystère. Il a bien mérité de savoir. Je lui apporterai le livre demain et nous lirons ensemble le passage sur les Borgia. Vraiment bizarre. Par exemple, alors que les Médicis préféraient l'intercession des animaux domestiques pour approcher le monde magique, la famille Borgia eut, dit-on, durant ces siècles si productifs de la Renaissance, du moins du point de vue de l'art, un objet inanimé comme talisman. Selon la légende, la grande stèle de la Révélation, ancien obélisque de métal enlevé au 5e ou au 6e siècle du sanctuaire d'Osiris en Égypte, fut longtemps à l'origine de la puissance de la famille Borja de Valence en Espagne. En 1455, lorsqu'un des membres de cette très ancienne famille de nécromants fut élu pape, quelle ironie du sort lorsqu'on pense que ce fut grâce au pouvoir occulte d'un symbole pré-chrétien, son premier soin fut de faire fondre une énorme cloche. Il n'y a pratiquement aucun doute sur ce point. La cloche, qui arriva à Rome juste après la mort de ce pape, était en fait la stèle de la Révélation, transformée en un objet plus acceptable pour les foules chrétiennes qui attendaient avec ferveur son arrivée. Cette cloche était, dit-on, bien plus que les traditionnels objets magiques conservés dans toutes les cours royales de l'époque, qu'elles fussent chrétiennes ou mortes. Les Borja la considéraient comme celle qui dévore et engendre tout. En Égypte, la stèle de la Révélation était connue sous le nom de couronne de mort et sa métamorphose prédite dans le livre des Abîmes. À la différence des totems vivants, qui ne jouent qu'un rôle d'intercesseur, la stèle, même réincarnée sous forme de cloche, exigeait des sacrifices humains. On raconte que, avant de se rendre à Rome pour le conclave de 1455, au cours duquel il fut, contrairement à tous les pronostics, élu pape, Don Alonso y Borja lui avait fait l'offrande d'un nouveau-né, sa première petite fille. Mais Don Alonso, plus connu sous le nom de Calixte III, n'avait plus l'envie d'effectuer les sacrifices prescrits, à moins qu'il n'ait jugé que toute la puissance de la stèle avait été utilisée à bon escient, pour assurer son accession au trône de Saint-Pierre. Toujours est-il que les immolations cessèrent. Le pape Calixte mourut. La cloche fut suspendue dans la tour du palais de son neveu. Rodrigo y Borja, cardinal de Rome, successeur de l'archevêque de Valence et premier héritier de la dynastie des Borgia. Mais selon la légende, la stèle déguisée en cloche n'en avait pas fini avec ses exigences. Après son bain, Dale remonta dans sa chambre. Lorenz était déjà couché, ou plus exactement, il était assis en tailleur au milieu de son lit, une étrange expression sur le visage.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
demanda son grand frère. Lorenz était si pâle qu'on aurait pu compter ses taches de rousseur.
Je ne sais pas. Je suis entré pour allumer. J'ai entendu du bruit. »
Dale soupira. Il n'avait pas oublié cette soirée, 2 ou 3 ans plus tôt, où ils étaient restés seuls devant la télévision pendant que leur mère faisait des courses. C'était une fin d'après-midi d'hiver et ils avaient regardé La vengeance de la momie. Dès la fin du film, Lorenz avait commencé à entendre du bruit dans la cuisine. Le pas lent et lourd de la momie du film. Dale avait autant paniqué que son petit frère. Entendant les pas approcher, il avait ouvert le vasistas et sauté dehors avec lui, en t-shirt et chaussettes. À leur retour, leur mère les avait trouvés en train de grelotter sous la véranda. Mais à l'époque, Dale avait 8 ans et non 11.
Qu'est-ce que tu as entendu ?
Lawrence regarda autour de lui.
Je sais pas. J'ai pas vraiment entendu. J'ai plutôt senti comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre.
Avec un autre soupir, Dale jeta ses chaussettes sales dans le panier et éteignit le plafonnier. La porte du placard était entrouverte. Il la claqua au passage, mais elle refusa de se fermer. Pensant qu'une pantoufle ou autre chose la coinçait, il s'arrêta et poussa plus fort. La porte se rouvrit. Quelque chose à l'intérieur essayait de sortir. Dans son sous-sol, Dwayne s'essuya le visage avec un bandana. Il faisait toujours frais ici, mais ce soir, il transpirait beaucoup. Il venait de recopier à toute allure sur son carnet tous les renseignements intéressants et continua sa lecture. L'immolation de la première petite fille du premier pape de la famille Borgia avait presque déclenché la reviviscence de la stèle de la Révélation, maintenant métamorphosée en cloche. Toutefois, selon Ottaviano, les Borgia craignaient la puissance de leur talisman et ne voulaient pas être responsables de l'apocalypse que provoquerait, selon la légende, son réveil complet. Selon le livre de la loi, la stèle de la Révélation donnait à ceux qui la servaient un immense pouvoir, mais le jour où tous les sacrifices prescrits seraient accomplis, elle deviendrait le glas du dernier jour, le héros de l'Apocalypse, qui suivrait son réveil de 60 ans, 6 mois et 6 jours. Rodrigo, second pape de la dynastie des Borgia, fit suspendre la cloche dans la tour qu'il avait fait ajouter au palais du Vatican. Là, dans la Torre Borgia, Alexandre, nom de pape de Rodrigo Borgia, préserva, dit-on, la stèle de l'éveil grâce aux fresques d'un nain à demi-fou, un artiste appelé Pintulicchio. Ces images grotesques, car copiées dans des grottes sous la ville de Rome, bridèrent le pouvoir maléfique de la stèle tout en permettant à la famille Borgia de bénéficier du pouvoir de son talisman. C'est du moins ce que pensait Alexandre. Mais on trouve aussi bien dans le livre de la loi que dans les ouvrages secrets d'Ottaviano des allusions à l'influence de la stèle sur la vie des Borgia. Des années plus tard, Alexandre la fit transporter dans l'impénétrable et massif Castel Sant'Angelo, mais même reléguée dans ce sépulcre de pierre et d'ossements, elle continua d'exercer son emprise sur les hommes qui avaient tenté d'utiliser son pouvoir. Ottaviano décrivit à plusieurs reprises la folie qui s'empara et des Borgia et de Rome durant ces décennies. Meurtres et intrigues atroces se succédèrent à un rythme effréné, même si l'on tient compte de la brutalité de cette époque. Des créatures démoniaques hantèrent les catacombes, des monstruosités semi-humaines errèrent dans le Castel Sant'Angelo et les rues de la ville. Tous ces phénomènes étaient des manifestations de la domination exercée par la stèle de la Révélation qui s'acheminait vers son réveil. Après la terrible mort d'Ottaviano, les récits concernant la stèle deviennent plus vagues. On connaît l'histoire de la chute de la maison Borgia. Une génération plus tard, dit-on, le premier souci du premier pape de la famille Médicis fut d'éloigner la cloche de la ville sainte, puis de la faire fondre et d'enterrer le métal maléfique en terre consacrée, loin du Vatican. De nos jours, personne n'a la moindre idée du lieu où se trouve la stèle de la Révélation. On ne sait même pas si elle existe encore. Toutefois, les traités de nécromancie mentionnent encore le pouvoir de celle qui dévore et engendre tout. Dwayne repoussa le journal d'oncle Hart. Il entendait son père fourrager dans la cuisine en marmonnant. Puis la porte claqua, le pick-up démarra dans un grincement de levier de changement de vitesse et s'éloigna dans l'allée. La longue période d'abstinence du pater était terminée. Dwayne ne savait pas s'il avait pris la direction de chez Carl ou de l'Arbre Noir, mais une chose était certaine, il n'était pas prêt de le revoir. Dwayne resta assis sous la lampe à contempler le cahier de son oncle et ses notes, puis il alla mettre le crochet à la porte de la moustiquaire. La porte du placard était en train de s'ouvrir lentement. Dale s'arc-bouta, retint le battant qui révélait maintenant 12 cm d'obscurité et se tourna vers Lawrence qui le regardait, les yeux exorbités.
« Aide-moi !»
La poussée derrière la porte se renforça. Dale, en chaussettes, dérapa sur le plancher et l'ouverture s'agrandit encore de quelques centimètres.
« Maman !»
hurla Lorenz en sautant du lit pour aller aider son frère. En appuyant leur épaule contre la porte, les deux enfants réussirent à la refermer de quelques centimètres.
« Maman !»
hurlèrent-ils en chœur. La porte se bloqua, ils sentirent comme un poids juste derrière et elle recommença à s'ouvrir. Dale et Lorenz, la joue contre les planches, percevaient à travers le bois une pression terrible. La porte s'entrebâilla de quelques 10 centimètres. Aucun bruit ne venait de l'intérieur du placard, mais à l'extérieur, les deux garçons soufflaient, haletaient et l'un en chaussettes et l'autre pieds nus essayaient de ne pas glisser. La porte s'ouvrit encore. L'ouverture mesurait bien 30 centimètres maintenant et un courant d'air froid semblait en sortir.
« Mon Dieu, j'en peux plus !»
haleta Dale. Sa cuisse gauche prenait appui contre la vieille commode, mais il n'arrivait pas à repousser la porte. La créature qui poussait là-dedans avait au moins autant de force qu'un homme adulte. La porte continua à s'ouvrir.
« Maman !»
hurla Lorenz.
« Maman, au secours !»
Il y eut une vague réponse venue de la véranda, mais Dale comprit qu'il ne réussirait jamais à résister assez longtemps à la terrible pression.
« Sauve-toi !»
Lorenz le regarda, le visage terrifié, lâcha tout et bondit sur le lit. Sans l'aide de son petit frère, Dale n'avait aucune chance de retenir la porte. La poussée continua. Il se laissa entraîner, sauta sur la commode et releva les jambes. La lampe et les livres qui s'y trouvaient s'écrasèrent sur le sol. La porte cogna contre les genoux de Dale. Lorenz hurla. Dale entendit les pas de sa mère dans l'escalier. Elle demandait quelque chose, mais avant qu'il eût le temps d'ouvrir la bouche pour répondre, une bouffée d'air glacé passa, comme si l'on avait ouvert la porte d'une chambre froide, et une forme sortit du placard. C'était quelque chose de bas et long, au moins 1,20 m, aussi dépourvu de substance qu'une ombre, mais bien plus noire. Une masse sombre glissant sur le sol comme un insecte qu'on vient de libérer d'un bocal et munie de pattes semblables à des filaments s'agitant frénétiquement. Un cadre avec une photo s'écrasa sur le sol.
« Maman !»
hurlèrent en chœur les deux garçons. En un éclair, la monstruosité noirâtre traversa la chambre. Elle aurait ressemblé à un cafard si les cafards mesuraient plus 1 mètre de long et 10 centimètres de haut et étaient faits de fumée noire. Des espèces de tentacules griffèrent le parquet.
« Maman !»
L'horrible apparition se précipita sous le lit de Lorenz, qui sauta silencieusement sur celui de son frère comme un acrobate sur un trampoline. Leur mère apparut sur le seuil et regarda l'un après l'autre ses deux fils en train de hurler.
« Quelque chose sorti du placard, parti là-dessous! Sous le lit, un truc noir, énorme !»
Leur mère courut jusqu'au placard du couloir et revint armée d'un balai.
« Dehors !»
cria-t-elle et elle alluma le plafonnier. Dale hésita une seconde avant de sauter par terre, de se faufiler derrière sa mère et de courir dans le couloir. Lorenz bondit du lit de Dale au sien, puis à la porte. Tous deux glissèrent sur le plancher et ce fut la rampe du palier qui les arrêta. Dale risqua un coup d'œil dans la chambre. Sa mère, à quatre pattes, soulevait le bord du dessus de lit de Lorenz.
« Maman, non !»
Il se précipita et tenta de la tirer en arrière. Elle lâcha le balai et saisit le bras de son aîné.
« Dale, Dale, arrête, arrête, voyons, il n'y a rien là-dessous. Regarde toi-même. »
Sanglotant à demi, Dale se pencha. Il n'y avait rien sous le lit.
« C'est sans doute parti sous celui de Dale, »
remarqua Lorenz du seuil de la porte. Dale, toujours accroché à elle, Madame Stewart souleva le deuxième couvre-lit. Son fils faillit s'évanouir en la voyant se mettre à nouveau à quatre pattes et pousser le balai dans le noir.
« Vous voyez bien ?»
dit-elle en se relevant et en brossant sa jupe.
« Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que vous avez cru voir ?»
Ils répondirent tous les deux en même temps, et leur description était rien moins que convaincante. Quelque chose de gros, de noir, semblable à une ombre rampante, qui avait ouvert la porte du placard et s'était précipité sous le lit, une espèce de cafard géant.
« C'est peut-être retourné dans le placard alors ?»
suggéra Lorenz. Leur mère les regarda longuement, mais elle alla quand même ouvrir la porte du placard. Dale battit en retraite vers le couloir en la voyant remuer les vêtements sur les cintres, déplacer d'un coup de pied les chaussures et vérifier le bord de la porte. Le placard était vide. Elle croisa les bras et attendit. Les garçons restèrent à l'entrée de la chambre, regardant avec appréhension le palier où s'ouvraient, toute noire, la chambre d'amis et celle des parents, comme s'ils s'attendaient à en voir surgir une ombre.
« Vous vous êtes mutuellement fait peur, hein ?»
Les deux garçons protestèrent et répétèrent leur description. Dale montra comme ils avaient tous deux essayé de retenir la porte du placard.
« Et cette bestiole a quand même réussi à sortir ?»
demanda leur mère avec un petit sourire. Dale soupira. Lawrence le regarda, l'air de dire « Elle est encore sous le lit, c'est juste qu'on ne la voit pas. »«
Maman ?»
demanda Dale d'une voix aussi posée que possible.
« Est-ce qu'on pourrait dormir dans ta chambre ce soir ? Dans nos duvets ?»
Elle hésita un instant. Dale savait qu'elle pensait à cette histoire de momie, à moins que ce ne soit à l'épisode de l'été dernier. Après avoir passé toute la soirée dehors près du terrain de sport à essayer d'entrer en contact télépathique avec des vaisseaux spatiaux transportant des extraterrestres, ils étaient soudain revenus à toutes jambes, terrifiés par les feux de position d'un avion traversant le ciel.
Bon, d'accord. Sortez les duvets et les lits de camp. Il ne me reste plus qu'à aller expliquer à Madame Somerset que mes deux grands-fils ont interrompu notre conversation à cause d'un cafard géant.
Elle redescendit, les deux enfants sur ses talons. Ils la suivaient toujours lorsqu'elle remonta et ils la supplièrent de rester sur le seuil de leur chambre pendant qu'ils y prenaient duvet et lit de camp. Elle refusa de laisser la lumière du couloir allumée. Les deux enfants retinrent leur souffle quand elle alla éteindre le plafonnier de leur chambre, mais elle ressortit indemne et laissa le balai près du lit en guise d'arme. Dale pensa au fusil à pompe de son père, rangé dans le placard avec son petit Savage à canon superposé. Les cartouches se trouvaient dans le troisième tiroir de la commode en bois de cèdre de leurs parents. Le lit de camp de Dale était tout près du bord du lit de sa mère et, bien après que celle-ci se fût endormie, il sentait encore son frère éveillé, aussi tendu que lui. Quand la main de Lawrence saisit la sienne, il ne la repoussa pas. Il s'assura juste que c'était bien la main de son frère et non pas celle d'un monstre sorti de l'obscurité sous le lit. Il la tint bien serrée, jusqu'à ce que le sommeil l'emporte.